Tout à l'heure, à 3%, ça a été écrit par un sanctus d'une émotion profonde, car j'expérimentais à ce moment-là l'exultation du ciel. Et oui, ne dit-on pas au château avec les anges, les archanges, etc. C'est-à-dire que ça, à part que ce n'était pas l'exultation des anges seulement, mais c'était l'exultation de tous ces petits enfants qui ont disparu un peu vite, rejetés généralement, ce fameux problème de l'avortement dont on nous parle tant dans notre pays, en des termes tout à fait tronqués, qui ressemblent un peu à ceci, l'Église catholique, très machiste, très patriarcale, utile de faire un dessin, et contre la libération de la femme. Voilà donc les catholiques traités de rétrograde, de manquant de s'adapter aux problèmes sociaux actuels, etc., etc. Quelle malhonnêteté que de lier les problèmes qui doivent être traités certes à certains moments ensemble, mais qui ont chacun leur propre logique. D'ailleurs, au nom de la liberté individuelle, n'est-on pas en train de revendiquer les droits de la femme d'être pleinement femme, d'être libre et de n'être plus sous la domination masculine? Et ce sont des problèmes différents, même s'il y a des connexions, bien entendu. Quelle est donc cette pensée nouvelle? Une nouvelle, relativement nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, à tel point de devenir une revendication sociale. Quelle est donc cette nouvelle philosophie qui veut que chaque personne doit se déterminer par elle-même? On va jusqu'à dire qu'une personne n'est pas marquée par sa nature à la naissance, et qu'elle a la liberté de choisir son sexe au fur et à mesure de son existence. La fameuse loi du genre, du jardin, on verra en anglais. Et oui, la liberté individuelle, poussée, je vais dire, à son extrême, devient comme la revendication de l'homme d'être le créateur de lui-même et d'être quelque part maître de la vie et de la mort au nom de cette liberté, de son épanouissement personnel. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir fleurir, je vais dire, toutes ces philosophies qui ont comme culte le bien-être, le bonheur, tous ces chemins que l'on nous enseigne, qui va jusqu'à, je vais dire, des soins physiques, etc. Voilà. Tout ça, c'est la même philosophie. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre soin de soi-même, bien sûr que oui. Mais je parle d'un culte. Je parle d'une admiration envers et contre tout qui fait de nous, finalement, des dieux. La fameuse tentation du départ, vous serez comme des dieux. Vous avez la capacité de décider. Alors pourquoi tenir compte des règles de Dieu alors que vous avez tout en vous pour pouvoir mener votre vie avec la bonne chance sainte? Et nous voilà donc créateurs de notre propre vie, créateurs et maîtres et décideurs de la vie et donc aussi de la mort. Et c'est ce dont on ne nous parle jamais, les conséquences de l'avortement. D'abord généraux, les conséquences générales, pardon, qui dit, qui laisse dire que certains pays ont dû ouvrir leurs frontières à la main-d'œuvre étrangère pour maintenir leur pays, pour maintenir l'économie de leur pays. On cite souvent l'Allemagne et ses 2 millions de Turcs qui ont été importés en très peu de temps, car la pyramide des âges était tout à fait inversée par rapport à une bonne gestion économique. Mais on ne parle pas non plus des dégâts sur les personnes, et en priorité sur les femmes. Ah oui, de ça, on ne parlera jamais. Une vie qui naît en elle est une vie définitive, nous le savons. Ce n'est pas une parenthèse, un accident partout, même si ces mots-là peuvent être employés. Non, la liberté de la femme qu'elle est-elle. De nombreux témoignages parlent de cette femme avortée. Nous avons le dernier drame ici en Belgique. On nous dit qu'une dame, une enseignante, une jeune dame, a assassiné deux de ses enfants, a raté le troisième, et a voulu se donner la mort suite à un état dépressif lié à la date anniversaire de son avortement. Tout cela, on ne nous parle pas de cela. On ne nous parle pas de dégâts. Moi, dans mon ministère, dans les sacrements notamment, j'ai entendu des confidences de personnes, des parcours vraiment très douloureux, marqués par une blessure psychologique, mais aussi une blessure religieuse, un sentiment de culpabilité énorme. Je vous ai cité à plusieurs reprises cette dame qui, au décès de son mari, est venue et a avoué 6 avortements parce qu'elle avait été contrainte par son mari, qui ne voulait absolument pas d'enfant, mais qui ne faisait pas ce qu'il fallait pour ne pas en avoir, si vous comprenez. 6 enfants. Elle vient me trouver et j'ai parlé. J'ai parlé avec elle, non pas comme d'un péché, mais comme d'une famille qui lui avait été donnée et qu'elle n'avait pas été apte, pour différentes raisons, d'accepter. Mais qu'aujourd'hui, elle pouvait accepter ce qui était son profond désir. Et j'ai baptisé symboliquement, évidemment, chacun de ses enfants, leur donnant des prénoms. Et cette femme s'est relevée, je croyais être en présence d'une jeune fille de 20-22 ans, alors qu'elle en avait plus de 60. Extraordinaire, cette réconciliation entre les mamans et leurs enfants qu'elles n'ont pas eu, croit-elle, mais qu'elles reçoivent dans la miséricorde de Dieu. Que c'était beau, que c'était beau ces moments qui nous montrent à la fois une blessure, à la fois une pauvreté, mais qui nous montrent aussi la grandeur et la bonté de Dieu. Tout à l'heure, je vivais cette exultation de tous ces enfants qui sont montés au ciel directement, parce que voulu par Dieu, bien sûr, et qui sont aujourd'hui au ciel dans une joie terrible, dans une joie extraordinaire, et qui n'ont qu'un désir, se faire connaître par leurs parents, se faire, je vais dire, retrouver leur famille qu'ils n'ont pas encore eue. Quelqu'un me citait une apparition privée, on n'est pas obligé d'y croire. Une personne qui voyait à l'occasion d'un baptême dans une paroisse où elle était présente, elle voyait comme un enfant qui assistait au baptême et qui avait l'air triste. Et alors cet enfant lui parle et lui dit « Je n'ai jamais eu de prénom. Or, on est en train de donner un prénom à l'enfant. Moi, je voudrais tellement avoir mon prénom. » Vous voyez, le ciel et la terre sont unis. Dans cette vie, dans ce projet de vie que nous, les humains, avec notre aveuglement, avec l'état de bonne raison, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour redire le grand mystère de la vie. C'est vrai que parler de l'avortement, parler de la libération de la femme, c'est faire allusion à une église parfois très paternaliste, très machiste. C'est vrai, il y a des choses comme cela qui doivent être corrigées, c'est vrai. Mais en niant le problème de la vie qui peut surgir malgré nous, en se faisant créateur, on est en train de détruire notre propre influx de vie qui nous habite. Et cela nous fait grave. De cela, on ne parlera pas. On va nous parler des 12, 14, 16 semaines. Même les gens de bon sens se rendent compte que attendre, ou bien ce sont des mesures absolument incroyables et dramatiques. Qu'il y ait des débats pour ceux qui ne sont pas croyants, on peut le comprendre. Mais de grâce, qu'on n'impose pas aux chrétiens cette vision de voile qui met en échec l'avenir de notre pays, l'avenir de certains pays. On ne nous parle jamais de cela. Mère Teresa en elle a fait une œuvre extraordinaire. Elle a été médaillée d'ailleurs, Mme Larousse, reconnaissance de l'État de l'Inde. Elle a dit deux choses. La première, les moyens de contraception naturelle, dont on ne parle plus jamais ici, évidemment, parce que simplement les pauvres n'ont pas d'argent pour s'acheter des moyens artificiels, je vais dire. Alors, elle leur a enseigné par sa congrégation tous ces moyens qui sont d'ailleurs très intéressants. Mais voilà, j'ai plusieurs amis qui sont des leaders dans ce domaine-là et qui s'en trouvent vraiment simplement très bien quand on parle de ces choses-là. La deuxième chose qu'elle a faite, elle a dit, les enfants, amenez-les-nous, on va s'en occuper, amenez-les-nous. Ah, que je rêve d'une église qui dirait, à la place d'avoir des sentences de condamnation, qui ouvrirait des portes d'accueil, qui dirait amenez-les-nous, amenez-les-nous, ne les rejetez pas. Bien ici, je rêve d'un État qui légiférerait des droits, je vais dire, parce que la femme est mère, mais le père, où est-il? Qui, des lois qui, je ne sais pas comment il faut le dire, qui responsabiliseraient d'une manière obligatoire les pères. Il y a des tests ADN qui peuvent déterminer la paternité de quelqu'un. Avoir des lois, notamment en Belgique, ça pose un problème, je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez, nous devons avancer dans une toute autre manière d'envisager les choses. Nous ne devons pas penser comme, je vais dire, on nous propose dans la presse et entrer dans des débats qui laissent entendre que, bah oui, on peut discuter de X semaines, X semaines. Ou tel jour, n'entrons pas dans tous ces débats. Il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui est de dire la vie ne nous appartient pas. Nous sommes pourtant des co-créateurs. Le Seigneur veut faire de nous des responsables. C'est dans ce chemin que nous sommes. Et on connaît tous des histoires très belles d'enfants qui sont nés, je veux dire, en dehors des normes, et qui ont fait la joie de leur famille. Je me souviens pas toujours d'un témoignage d'un papa qui avait eu une fille trisomique après plusieurs enfants et qui disait « Elle a été la joie de notre famille. Elle a été la joie de ses frères et sœurs. » C'est une gamine trisomique qui était née un an. Les trisomiques, 90% de trisomiques ne naissent pas. Ne naissent pas. Il y a presque plus de trisomiques. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'il faut avant. Ah, tout ça, frères et sœurs, nous endurcit le cœur. Quand on pense, quelqu'un disait à propos des trisomiques, vous savez, ils ne sont pas handicapés du cœur. Et tous ceux qui en connaissent, bien sûr, il y a des variantes et des degrés d'affectation, je veux dire, mais tous ceux qui connaissent des trisomiques savent combien. Nous mettre sur une école de simplicité, de vérité, d'affection, etc., avec aussi des caractères qui parfois ne sont pas faciles. Frères et sœurs, notre évangile est un évangile de vie. C'est pas un évangile où on s'engage dans des chemins compliqués, et même si un jour nous y sommes appelés, pas nous, mais la génération suivante, etc., nous devons avoir des attitudes d'accueil, des attitudes de compréhension, des attitudes de vie. Alors voilà, si certaines parties qui voudraient respecter la loi de Dieu entrent dans des compromissions, ce sont leurs problèmes. C'est des adaptations sociales, tout ce que vous voulez, mais moi personnellement, je ne veux même pas entrer dans tout ça. Nous avons des valeurs fondamentales. Il faut tout simplement les porter, les supporter parfois, et supporter la persécution dont nous sommes victimes aujourd'hui. J'ai entendu des femmes féministes, dans le sens de l'avortement personnel, qui parlaient avec une telle conviction, qui disaient leur scandale par rapport à l'Église catholique qui vient barrer la liberté des femmes. J'étais pleine de compassion pour ces femmes, me disant, comment est-il possible d'entrer dans la haine par rapport à une église qui promeut la vie, parce qu'un jour il y a eu cet événement, cet accident de parcours, ou que sais-je encore. Des gens qui deviennent militants, qui vont jusqu'à nier la vie et se faire, je vais dire, les juges de la vie et de la mort, alors que ce sont des braves gens. Pourquoi arriver à tout cela? Vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit? Et vivre selon l'esprit veut dire ne pas vivre les problèmes seuls. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui portent un fardeau, qu'ils viennent à moi, je les consolerai, je leur donnerai le langage de la paix, je leur donnerai le langage de la vie. Frères et sœurs, comme nous voulons souvent construire notre vie sans Dieu, ou avec un Dieu qu'on appelle de temps en temps quand on en a besoin. Écoutons Saint-Paul, il faut vivre dans l'esprit de Dieu. Alors bien des difficultés sont comme aplanies, bien des problèmes se transfigurent en des chemins de conversion, en des chemins de solidarité, en des chemins de bonté. Aïe, aïe, aïe. Reste vrai, on doit tous ressusciter.